Pourquoi les femmes ne contestent-elles pas la souveraineté mâle? D'où vient en la femme cette soumission?
Est-ce que vous-même, vous avez souffert d'être femme?
Non, jamais. C'est ce que j'explique dans mes mémoires. Et c'est pour ça qu'on s'est beaucoup trompé si on a cru que le deuxième sexe, c'était un livre de revendication. À vrai dire, je ne m'étais même pas souciée de ce problème jusqu'au moment où, à travers les autres femmes que j'ai rencontrées, avec qui j'ai parlé, dont j'ai vu l'expérience, je me suis rendu compte qu'il y avait un malheur proprement féminin.
Vous avez reconnu sa voix, c'est Simone de Beauvoir, l'écrivain, la romancière, l'essayiste, l'auteur de Mémoires que la Pléiade vient d'éditer. Simone de Beauvoir qui revit cet après-midi sur France Inter avec entre autres Geneviève Fraisse qui est avec nous, philosophe, historienne, spécialiste de la pensée féministe. Ça va comme définition?
Ça peut aller.
C'en est une. Jean-Louis Janel, je le rappelle, est professeur de littérature à Armand et puis il fait partie de ceux qui ont permis aux lecteurs de relire ou de lire les mémoires de Simone de Beauvoir en Pléiade. Et puis il y a une jeune femme qui a une trentaine d'années qui est avec nous, qui a été prof d'économie mais qui n'enseigne plus maintenant. Elle m'a dit « Présentez-moi comme activiste ». Bonjour, Rebecca Amsalem. Ça veut dire quoi, activiste?
Activiste, ça veut dire se battre pour l'égalité entre les femmes et les hommes, en tout cas quand on est activiste féministe.
Et les glorieux. Si je vais sur Internet et que je cherche la newsletter Les Glorieuses, qu'est-ce que j'y trouve?
La newsletter Les Glorieuses, c'est une lettre d'information donc, que j'ai lancée il y a 3 ans, qui a pour objectif de parler de plein de sujets différents. Donc, je m'adresse essentiellement aux femmes, mais je vais parler de politique, d'amitié, de sujets publics ou de sujets plus personnels, toujours en citant uniquement des femmes. Pour remettre déjà sur un piédestal les femmes, les intellectuelles qui ont été oubliées à travers l'histoire, et plus qu'oubliées, elles ont été même invisibilisées à travers l'histoire. Et je suis activiste parce que je veux remettre ces femmes, ces intellectuelles à l'ordre du jour.
Est-ce que vous avez aidé les étudiants qui passaient la grecque à travailler sur Beauvoir? Parce qu'elle est au programme Mémoire d'une jeune fille rangée. Au programme de la grecque cette année, Jean-Louis Janel.
Oui, ce qu'on appelle les internes sont passés, mais ce n'est pas Beauvoir qui est tombé à l'agrégation, c'était Marivaux. Donc voilà, ce sera pour une prochaine fois, peut-être pour les
grand
externes.
Féministe.
Oui, aussi.
Mais quand vous avez enseigné à des jeunes étudiants, enfin des étudiants qui ont, je sais pas, 25 ans, 30 ans vous...
Alors, il y a des âges très très différents parce qu'il y a ce qu'on appelle l'interne et l'externe.
Mais je voudrais savoir la réception par ces étudiants.
Alors, leur réception en général, elle était très positive. J'ai eu l'impression qu'elle était beaucoup plus positive pour ceux qui sont plus âgés,
ah oui.
Qui effectivement s'intéressent, entrent dans le texte, se l'approprient, y voient la dimension extrêmement humaine, politique, philosophique, plus que pour les étudiants qui sont plus jeunes et qui passent l'agrégation en ce qu'on appelle l'externe, où effectivement c'est dans la suite de leurs études et ils n'enseignent pas encore, alors que les internes, eux, enseignent déjà et peuvent parfois avoir 40, 45 ans.
Certains découvraient Beauvoir?
Non, tous avaient lu en général, ou beaucoup en tout cas, avaient lu les Mémoires de jeune fille rangée ou connaissaient vaguement le deuxième sexe. Beauvoir, c'est le type d'auteur que l'on croit connaître très souvent, pas forcément parce qu'on l'a lu, mais parce qu'on a tellement entendu parler que c'est le genre d'auteur qu'on se dit... Très souvent, ne pas avoir besoin de lire, on la connaît déjà suffisamment.
Eh bien, on va se retrouver tous les trois, si vous le voulez bien, avec les auditeurs, mais on va d'abord écouter une femme, Bess Ditto de Gossip, Hevie Cross, sur France Inter.
It's a funny way to make ends meet when the lights are out on every street. It feels alright, but never complete without you. Oh,
L'humanité est mal et l'homme définit la femme non en soi, mais relativement à lui. Elle n'est pas considérée comme un être autonome. La femme, l'être relatif, écrit Michelet. Et elle n'est rien d'autre que ce que l'homme en décide. Ainsi, on l'appelle le sexe, voulant dire par là qu'elle apparaît essentiellement au mâle comme un être sexué. Pour lui, elle est sexe. Donc elle l'est, absolument. Elle se détermine et se différencie par rapport à l'homme et non celui-ci par rapport à elle. Elle est l'inessentiel en face de l'essentiel. Il est le sujet, il est l'absolu, elle est l'autre.
Marianne Bassler lisant un extrait du Deuxième Sexe. Alors je précise les choses, on est en 49, Simone de Beauvoir a 41 ans, elle écrit une somme, un essai, ce Deuxième Sexe donc, livre que l'on trouve en deux volumes dans la collection Blanche de Gallimard, pas dans la Pléiade d'ailleurs, Jean-Louis Janel, le Deuxième Sexe.
Pas encore, mais ça ne saurait tarder.
Il y a beaucoup de lecteurs et de lectrices qui s'en plaignent, mais ça va venir.
Je botte en touche. Je ne sais pas, peut-être que ça viendra, Foucault a été en Pléiade, Beauvoir le sera certainement aussi, mais vous remarquerez que les essais philosophiques de Sartre ne sont pas encore en Pléiade non plus.
Donc, oui, enfin, il est entré en Pléiade un an après sa mort.
Bien sûr.
C'est-à-dire, il y a bientôt, quoi, donc c'est en 81. Oui. Elle est morte quelques années après.
Non, je ne dis pas le retard,
bien
sûr.
Elle arrive plusieurs décennies après.
C'est vrai.
C'est quand même étonnant, surtout après tout ce qu'on vient de dire dans les minutes et l'heure qui a précédé, qui était quand même de montrer la force, la puissance de ses écrits, de cet intellectuel, de cette écrivaine. Et on est quand même, au niveau de la machine éditoriale, comme dans une inversion des choses.
Je ne nie pas le retard, mais à vrai dire, il a été collectif, ce retard. C'est là, aujourd'hui, depuis quoi, 5 ans, que l'on commence à s'agiter autour de ce, vraiment autour de ce qu'ils ont. Les féministes le faisaient depuis très longtemps. Mais n'était pas très écouté.
Ça n'a pas suivi. Oui,
ça n'a pas suivi.
Ça ne s'est
mais
pas
à vrai dire, dans le monde de l'édition, cette invisibilisation des femmes dont vous parliez, elle était là depuis très très longtemps. Et la Pléiade n'est pas beaucoup plus en retard que beaucoup d'autres maisons d'édition.
Il y a très peu de femmes dans la Pléiade.
Il y a très peu de femmes, bien sûr. Mais ce retard, il était général. On ne s'en inquiétait pas, à part les féministes.
Alors parlons du Deuxième Sexe. On va écouter l'écrivaine Annie Ernaux nous parler de la manière dont ce livre a agi sur elle quand elle l'a lu. Mais je voudrais que vous nous présentiez, si vous voulez bien, Geneviève Fraisse, ce livre. Quel est le projet de Beauvoir quand elle écrit le Deuxième Sexe?
C'est le projet d'une totalité. C'est-à-dire de traverser tous les lieux où on a parlé des femmes. Les faits et les mythes, d'une part, mais après, elle va faire chapitre après chapitre, elle va traverser la littérature, l'anthropologie, la philosophie, c'est-à-dire qu'elle va faire c'est là où je parle de son savoir encyclopédique, mais elle va le construire pour savoir ce que c'est que, je sais pas, la femme mariée, la fille, l'homosexuel, l'intellectuel.
Oui. La jeune fille, l'initiation sexuelle, la lesbienne, la femme mariée, la mère, la vie de société.
Oui, mais elle commence aussi par l'histoire, ce qui, moi, m'avait rendu malade à l'époque, parce qu'elle dit beaucoup de mal de l'histoire du féminisme. Et alors là, permettez-moi de dire une chose, l'introduction, j'en ai beaucoup parlé, mais la conclusion, c'est pareil. Elle reprend intellectuellement toute sa démarche et elle se pose la question de savoir comment sortir du conflit avec ce mot fraternité, qui est quand même le dernier mot de ce livre, qui est un peu étonnant parce que la question des
elle
frères...
Elle rêve d'une fraternité entre hommes et femmes, c'est beau ça reste
oui,
un vœu.
Mais vous savez que fraternité, ça veut dire frère.
Oui.
Bon, là, il y a un petit problème genré. Là.
Alors, il faut dire sororité.
Non, j'ai pas dit ça non plus. Mais elle emploie le mot « mitzein », le mot allemand « mitzein » à plusieurs reprises, qui est extrêmement important. Mais
ça veut dire quoi?
Ça veut dire « être avec », en allemand, c'est, ou « être ensemble » ou « être avec ». Et elle se demande, très honnêtement, elle est à la conclusion, après tout ça, va-t-on, peut-on sortir de conflit?
En 1978, c'est-à-dire 2 ans avant sa mort, Sartre parle de ce livre, Le Deuxième Sexe, donc sorti en 49, avec Simone de Beauvoir, devant la caméra de José Dayan. Écoutez-les.
Non mais ce qui est curieux, simplement, c'est que vous avez commencé comme une femme non féministe, une femme de ce point de vue quelconque, qui veut savoir ce que c'est d'être femme. Et en écrivant le livre, vous êtes devenu féministe. Vous avez vu vos ennemis, vous les avez attaqués. Et vous avez bien précisé ce qu'était qu'être femme.
Oui, mais je suis restée...
C'est la valeur du livre.
Je suis restée sur un plan théorique. Et maintenant, aux yeux des militantes, ces livres peuvent avoir une certaine valeur de... parce qu'elles n'ont pas tellement de théoriciennes. Mais moi-même, je suis restée simplement sur le plan théorique. Et je n'ai pas fait un engagement féministe comme je l'ai fait ces dernières années.
Ben, c'est normal.
Oui, c'est normal.
C'est normal.
D'abord, il n'y avait pas de mouvement féministe à ce moment-là.
Oui. Et puis, vous êtes devenue en écrivant le livre. C'est la meilleure manière.
Mais surtout après que le livre ait existé pour d'autres femmes.
Geneviève Presse.
Juste après, c'est extrêmement important quand elle dit après. Il y a un livre entier qui a été fait par Ingrid Galster, une chercheuse allemande aujourd'hui disparue, pour nous donner tous les textes qui ont été balancés contre le deuxième sexe. Ça fait un livre entier. Oui. Elle a eu quelques soutiens, mais elle a eu surtout beaucoup d'ennemis.
On va en
donc
parler, bien sûr.
Après, moi je trouve ça extrêmement... Il faut lire ce livre, car il est extrêmement instructif.
Redites-nous le titre.
Je crois que c'est le deuxième sexe, tout simplement.
Merci.
Parce au que moment de la publication.
Mais c'est Ingrid Galster qui a fait ce livre et on le trouve facilement. Oui. Mais c'est passionnant, vous êtes d'accord?
Oui, tout à fait.
Alors on vous retrouve dans un petit moment, tous les trois. Je voudrais vous faire entendre la manière dont l'écrivaine, je le disais, Annie Ernaux, l'auteur de La Place, de Les Années, elle qui est passée, Jean-Louis Janel, du roman au récit autobiographique. Et bien voici comment Annie Ernaux a réagi quand elle a lu Beauvoir. Elle avait 19 ans. On est en 59, c'est 10 ans après la sortie du deuxième sexe.
Ah, il faut savoir que quand je lis Beauvoir, je suis en classe de philo. En fait, je ne sais rien de Beauvoir à ce moment-là. Je n'ai strictement rien lu du tout, mais rien du tout. Par exemple, je ne sais même pas quelle est la compagne de Jean-Paul Sartre. Pour moi, il y a Sartre d'un côté, il y a Beauvoir de l'autre. Je sais que bon, ce sont des existentialistes, tous les deux, mais je ne sais rien de plus. Et donc, je vais lire Le deuxième sexe en étant tout à fait neuve, d'une certaine manière, sur sa vie. Je ne sais rien de la vie de Beauvoir. Et j'attaque vraiment Le deuxième sexe, et là, c'est le choc. Pour une fois, bon, vraiment, on parle du sexe des femmes. Et puis, évidemment, ce qui me frappe le plus, c'est quand elle parle vraiment de la condition des femmes, quand elle étudie les cas, l'amoureuse ou la jeune fille, avec tout ce que ça suppose, les règles, la défloration, etc. Et puis, cette sorte d'élan qu'elle m'insuffle, elle donne un programme tout de même. Je le résume maintenant avec mon idée, c'est que la femme doit se hisser à la transcendance, voilà, parce que elle démontre tout au long que la femme est immanence. Bon, maintenant je discute ça, hein, c'est évident. Mais là, c'est comme si j'étais enlisée et que d'un seul coup, je sors la tête de l'eau, quoi. Non, mais c'est vraiment très fort, hein. Et je lui voue une reconnaissance d'avoir m'avoir secoué, quoi. Secoué d'une. Mais oui, mais parce que à cette époque-là, presque 10 ans avant 68, et le monde a très peu évolué depuis, je vais dire, pour des siècles. Hein. Il n'y a pas de contraception, bon, il n'y a pas d'avortement, mais voilà. Donc, et moi, j'ai subi de plein fouet l'année qui précède cette domination masculine et qui était partagée par les filles. On était toujours à l'idée que la virginité était tout de même l'idéal, vous voyez. Et moi, je ne m'étais pas bien comportée aux yeux de ni des garçons ni des filles. Et donc, j'avais eu le titre de putain sur les bords. Hein. C'était vraiment le terme. On était dans cette idéologie, hein, littéralement. Et c'était l'homme propose et la femme dispose. C'était le mantra de l'époque. Donc, Simone de Beauvoir, là-dessus, bah, c'est un souffle qui balaie. Et moi, j'ai voulu vraiment vivre, à partir de ce moment-là, vivre en étant, j'allais dire, maîtresse de mon corps, de ma liberté. Mais c'était très compliqué. C'était tout de même se battre contre les idées en cours de l'époque, les conseils, plus que les conseils de ma mère, les interdictions de ma mère, qui, sur le plan sexuel, étaient intraitables. En revanche, ma mère allait dans le même sens que Beauvoir, c'est-à-dire que je devais avoir un métier, faire des études, avoir un métier, ne pas dépendre d'un homme. Et c'était très novateur tout de même dans ces années 50.
Donc maman Duchesne, votre mère, plus cette figure.
Cette figure, oui.
Presque de conseillère amie, de sœur. Il y a peut-être une sororité entre vous.
Oui, je pense plus que je ne l'ai jamais vue, Simone de Beauvoir, comme une mère. Mais comme une grande sœur, oui, certainement. Qui avait eu un cheminement qui était tout de même, pour moi, l'idéal. Je dois reconnaître que les mémoires d'une jeune fille rangée, même si je ne m'y reconnaissais pas du tout dans l'enfance, dans ce côté, comme elle le dit d'ailleurs, dans les mémoires d'une jeune fille, elle avait un côté oie blanche. Elle ne savait rien sur la sexualité, elle ne s'y intéressait pas. Elle était dans un milieu qui était très très protégé. Elle était très très loin des réalités, de toutes sortes, sociales, etc. Mais je me suis retrouvée dans cette grande période qu'elle a, cette espèce de confusion qu'on voit très très bien. C'est un maelstrom d'idées et ça correspond assez bien pour moi à cette période-là que dans ma tête j'appelle des années de formation. Elle n'emploie pas ce terme. Là, je ne me souviens plus, mais qui sont extrêmement importantes pour toute la vie. Et alors cet amour, cet élan vers la vie que j'aurais souhaité avoir, que je n'ai pas en réalité, que je n'ai pas. Je me suis, moi, efforcée de l'avoir.
Qu'elle guide, hein, on a l'impression qu'elle vous a aidé à vous conduire d'une certaine manière dans la vie et à vous conduire en sujet libre.
Au sujet libre, c'était toujours ça. En revanche, moi j'étais évidemment dans un milieu de dominé, ma mère ouvrière, ancienne ouvrière, commerçante, je ne pouvais pas avoir la même possibilité de liberté. Et puis, il y a aussi un côté, elle vivait à Paris. Elle est allée à la Sorbonne. Vous savez, ça n'a rien à voir avec une petite université de province dans les années 50, éloignée de ce savoir qui était le privilège de la bourgeoisie. Beaucoup de mes camarades du lycée de Rouen, elles sont allées en Hippocagne. Je ne savais même pas ce que c'était. Je me souviens d'une fille qui a dit « Moi, je vais faire Sciences Po ». Je me disais, mais je sais pas ce que c'est que Sciences Po. Voilà, déjà, je sais pas ce qu'est Hippocagne, je ne sais pas ce qu'est Sciences Po. Et il y avait cette espèce de limitation inconsciente des ambitions.
Et finalement, votre orientation, vous la devez à Beauvoir.
Je me suis rattrapée, en quelque sorte, oui. Voilà. Mon idéal, c'était d'être prof et puis d'écrire. Au fond, c'était Beauvoir, quoi. Bon, mais là encore, j'ai été rattrapée par... j'ai eu un avortement, plein de choses qui sont... c'est normal, je veux dire. On ne peut pas suivre quelqu'un, être copie conforme. Ça suppose suivre à la lettre des choses. Non.
Aucune histoire banale gravée dans ma mémoire. Aucun bateau pirate ne prendra le pouvoir. Aucune étoile filante me laissera dans le noir. Aucun trac, aucun. Et demain, tout ira bien. Tout sera loin. Là au final, quand je prendrai le large. Tout sera loin, donne-moi la main, là au final, quand je prendrai le large. Aucune larme, aucune ne viendra m'étrangler. Aucun nuage de brume dans mes yeux délavés. Ni le sable ni la dune n'arrête le sablier. Aucun quartier de lune, aucun et demain. Tout ira bien, tout sera loin. Là au final, quand je prendrai le large. Tout sera loin, donne-moi la main. Là au final. Quand je prendrai le large. Aucun autre décor, aucun autre que toi. Aucune clé à bord, aucune chance pour moi. Et demain. ira bien, tout sera loin, là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin, donne-moi la main, là au final, quand je prendrai le large, aucun requin. Aucune langue de bois, aucun chaos, aucun. Et demain, tout ira bien, tout sera loin, là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin.
Le grand atelier sur France Inter.
Je souris parce que je dis à Geneviève Fraisse, attention, ça va être à nous, et elle me répond, on est bavardes comme des filles. Je n'ai jamais dit une chose pareille, Geneviève Fraisse.
Mais j'ai intitulé une fois un article Les bavardes.
Les bavardes.
Alors, voyez.
Je connais aussi des bavards. Vous savez, quand j'étais petit à l'école, on me mettait du scotch sur la bouche pour ne pas parler. Voilà, ma vie n'a aucun intérêt. Rebecca Amselem, vous avez entendu le témoignage de notre écrivaine Annie Ernaux, que je trouve assez émouvant parce que elle nous dit, j'étais enlisée, je lis Beauvoir, Le deuxième sexe, et je sors la tête de l'eau et je deviens, ou en tout cas j'essaie de décider de ma vie et je deviens une femme libre. Mmh. Est-ce que vous avez eu, vous, une réaction aussi entière en lisant, en découvrant Beauvoir un jour dans votre vie?
Quand je l'ai lu, je me suis dit qu'il y avait tellement d'expériences que j'avais vécues ou de moments de ma vie qui étaient des sources de frustration sans pour autant savoir pourquoi.
Lesquelles, par exemple?
C'est... la manière dont on éduque les enfants. Pourquoi est-ce que les filles avaient forcément droit à soit sage, soit gentille, ne bouge pas trop, mets une robe, soit polie, alors que les garçons c'était mais de toute façon, effectivement, s'il a ce comportement, c'est normal, c'est parce que c'est un garçon. Et en fait, la lecture du deuxième sexe et même des autres ouvrages d'ailleurs de Simone de Beauvoir me permettait juste de dire, effectivement, il existe quelque chose, je ne suis pas folle, il existe quelque chose qui explique qu'il y a cette différence de comportement. Et au-delà de ça, cette lecture est on ne peut plus actuelle parce que quand on est féministe, et j'imagine que Geneviève, on vous le fait tous les jours, on dit mais pourquoi est-ce que vous êtes féministe aujourd'hui? Pourtant, vous avez les mêmes droits que les hommes. Je pense que c'est vraiment la première chose qui revient en permanence. Et il y a Simone de Beauvoir qui dit quelque chose d'extrêmement juste au travers du deuxième sexe, c'est que effectivement les femmes ont les mêmes droits juridiques que les hommes, et encore quand le livre est paru c'était pas le cas, mais il existe un déséquilibre entre ces droits et les pratiques sociales, et je pense que ce livre, Le deuxième sexe, tient à ce déséquilibre. Et elle dit que tant qu'il y aura un déséquilibre entre les droits et les pratiques sociales qui font que les femmes, encore aujourd'hui, sur bien des points sont les inférieures des hommes, les femmes ne seront pas totalement libres.
Et par exemple les salaires.
Les salaires, ça c'est effectivement le combat que je mène depuis 3 ans maintenant. Sans égalité économique, on peut pas prétendre à une égalité juridique, on peut pas prétendre à une égalité culturelle. Il y a cette phrase qui est utilisée en long et large en travers de Simone de Beauvoir qui dit que tant qu'il y aura pas cette égalité économique, finalement les femmes ne seront pas complètement libres. Plus de 60 ans plus tard, c'est encore le cas aujourd'hui, il existe une égalité des salaires qui fait que les femmes aujourd'hui en France sont payées en moyenne 25% de moins que les hommes, un quart de moins que les hommes.
Rebecca Amselem, quel livre de Beauvoir avez-vous lu, vous?
Alors le premier livre que j'ai lu de Simone de Beauvoir, c'était Les Mandarins, que j'ai absolument adoré. Et à la suite de ça, ça a été La Force des Choses, et puis La Force de l'Âge. Et en fait, Le deuxième sexe, je l'ai lu très tardivement, après avoir commencé... entre guillemets, ma carrière d'activiste féministe. J'avais commencé par une partie du deuxième sexe qui est une femme indépendante ou la femme indépendante. Qui est,
Jean-Louis Janel,
parce que vers la femme indépendante. Hein. Oui, parce qu'il est sorti en petit
ouais,
folio.
Oui, c'est ça. Tout à fait. Qui était à 2 euros et je me souviens de l'avoir acheté parce que c'était sur le stand à côté
c'est
de la
C'est la fameuse
caisse.
Conclusion, effectivement, qui est extraordinaire, une synthèse fabuleuse.
Ouais. Geneviève Fraisse, je reviens sur le témoignage que vous avez entendu d'Annie Ernaux. Annie Ernaux est plus âgée que vous avez une dizaine d'années de différence. Elle parle de choc pour une fois dans la vie des femmes cette lecture. Est-ce que vous percevez ce qu'elle veut dire ?
Il y a deux choses que j'ai entendues dans ce qu'elle disait. La première, c'est comment elle décrit son époque et comment les filles, on est complètement coincées.
Dans les années 50
dans les années 60, c'est-à-dire 10 ans plus tard, c'est pareil.
Coincées comment, Geneviève
Fraisse ? Mais coincées de toutes les façons. Vous êtes là, vous devez aller à une surprise partie. Alors il faut que vous mettiez telle robe et puis vous restez sur le bord en attendant qu'on vous invite à danser. Enfin, des trucs, des horreurs. J'ai des souvenirs horribles de toute cette période-là. On est complètement coincées. Mais on nous envoie à l'école, comme les garçons, donc on va aussi avoir accès à ce fameux savoir qui est si important et dont je parlais, avec l'idée que bien sûr on aura un métier plus tard, chose aussi qui vient d'être appelée comme essentielle. Mais la deuxième chose qu'il y a dans son entretien, et qui me fait penser à ce que vous disiez Jean-Louis Janel tout à l'heure sur sa présence au monde, c'est-à-dire que précisément, elle va immédiatement dire, j'ai dit « je » pour le deuxième sexe, mais maintenant je dis « nous ». Alors c'est un échange avec Alice Schwarzer dans les écrits, et elle répond « c'est nous les femmes ». Non, elle dit « nous les féministes ». Et donc, elle est d'une présence au mouvement féministe entre 70 et 80 de manière énorme. Moi, j'en ai plusieurs expériences, notamment les émissions Sartre, par exemple, le soutien aux éditions Tierce, mais elle va aussi soutenir Question Féministe, elle va soutenir la Ligue des Droits des Femmes, etc. C'est-à-dire qu'elle va démultiplier ses soutiens. Ça ne veut pas dire, à l'époque, engagement au sens où elle va militer dans ces structures-là.
Le manifeste des 343 salopes
aussi,
pour l'avortement.
Mais aussi, par exemple, Libération. Enfin, c'est un mode d'être des intellectuels que d'être dans ces soutiens-là. Elle va avoir cette présence. Elle va ouvrir les temps modernes aux féministes,
la
notamment avec
modernes,
la rubrique oui. Le sexisme ordinaire, qui est une rubrique extraordinaire, qui a été republiée après par Le Seuil, qui est vraiment une anthologie d'humour féministe dont je conseille la lecture encore aujourd'hui. Et du coup, c'est pas la lecture qui pour nous va être important. Cette démultiplication, Claire Etcherelli est à ce moment-là la secrétaire des temps modernes, elle nous reçoit pour transmettre à Simone de Beauvoir telle et telle chose, enfin, il y a une animation comme ça.
Revenons à sa vision du féminisme en 1949, c'est l'année de sortie du deuxième sexe et c'est l'année de cette interview.
Je souhaite que les femmes deviennent des êtres humains qui soient absolument autonomes et responsables d'eux-mêmes comme les hommes. Par ailleurs, je ne crois pas du tout avoir négligé le fait qu'il y a un donné, au contraire, j'ai consacré à cela tout mon premier volume, un donné physiologique, historique, social, qui définit la femme comme étant autre que l'homme, profondément différente. La question, c'est de savoir, à partir de là, quelles sont ses chances, quels chemins peuvent être ouverts à sa liberté, et c'est de l'aider à se sauver comme être humain dans le monde où elle a naturellement, comme tout individu d'ailleurs, une situation très singulière. On s'est mépris d'ailleurs si on a cru que j'étais, mettons par exemple, contre la maternité, je suis simplement contre un certain asservissement de la femme à la maternité. On s'est mépris si on a cru que j'étais, par exemple, contre l'amour, alors que j'ai simplement réclamé que l'amour soit une relation de sujet à sujet, de personne à personne, et non pas une espèce d'esclavage et de mysticisme qui fait que alors la femme se mettra aux genoux de l'homme comme un dieu, et du même coup d'ailleurs lui donnera toutes les charges qu'on donne ordinairement à un dieu, etc., etc. Pour moi, ça se réduit à quelque chose de très simple, il faut que les femmes travaillent. Et comme ça, elles ne seront plus des parasites. C'est à la fois la garantie de leur indépendance, de la conscience qu'elles prendront d'elles-mêmes, des responsabilités qu'elles auront à assumer, et la base sur laquelle alors elles peuvent revendiquer des droits civiques et avoir vraiment un rôle dans la société. Et trouver par-dessus le marché leur bonheur en même temps que leur liberté.
Votre réaction à cette parole très claire, très sûre, très assurée de Beauvoir, Rebecca Anselem, on est en 49, hein?
Ça me fait penser à l'interview que j'ai eue avec l'activiste américaine Gloria Steinem il y a quelques mois. Et donc je lui parlais du féminisme français et je lui demandais qu'est-ce qu'elle en pensait et quelle était sa vision sur les féminismes français. Et effectivement, la première réponse était Simone de Beauvoir, 49, le deuxième sexe. Ça nous a ouvert les yeux. Et ça nous a ouvert les yeux sur la notion de choix, et c'est exactement ce dont Simone de Beauvoir parle à l'instant. C'est le choix d'être mère ou de ne pas être mère, le choix d'aimer ou de ne pas aimer. Et dans la notion de choix, effectivement essentielle dans le combat féministe aujourd'hui, c'est exactement pour ça qu'on se bat, pour que les femmes puissent faire le choix qu'elles veulent, mais surtout qu'elles aient les meilleures options possibles au moment de faire ce choix-là. Et le deuxième point, c'est effectivement sur la notion de travail, la liberté des femmes qui seraient conditionnées au fait qu'elles aient un travail, et je dirais même au fait qu'elles aient de l'argent et du pouvoir, finalement. Aujourd'hui, par exemple, dans le monde, on est quand même, il y a une donnée incroyable qui est que 99% des revenus de la propriété, donc les revenus de la propriété, c'est les revenus liés aux actions, liés aux immeubles, etc. 99% de ces revenus reviennent aux hommes et 1% reviennent aux femmes. Donc on est dans un rapport d'inégalité économique 99-1. Et tant qu'on sera dans ce rapport inégalitaire, on ne pourra pas prétendre à une une égalité sociale ou une égalité civique, comme elle le mentionne dans son interview.
Geneviève Fraisse.
J'ai deux petites remarques très contemporaines sur la question de l'autonomie économique, qui me paraît, bon, effectivement, le nerf de la guerre, qu'elle le dise en 49, c'est formidable. On continue sans cesse à le dire. Deux choses. Il n'y a pas eu de mouvement MeToo si les femmes qui ont pris la parole, à commencer par les États-Unis, donc des comédiennes, n'étaient pas en sécurité économique pour le faire. Il faut de l'autonomie économique pour prendre la parole, et c'est ce qui est apparu l'an dernier dans le mouvement MeToo. Deuxième chose, prenons le mouvement des Gilets jaunes, donc je continue sur l'actualité. Il est très clair que la question des femmes dans le mouvement des Gilets jaunes, et notamment celles qui sont en dépendance des aides sociales, parce qu'elles n'ont pas la possibilité d'avoir une autonomie économique, c'est au cœur d'un des problèmes que nous devons affronter aujourd'hui. La précarité des emplois dits partiels, etc., tout ça fait que ça crée ce fameux asservissement et dépendance des femmes par rapport au monde des hommes. Je dis là, au monde des hommes exprès. Donc, je veux dire, la question de l'autonomie économique, là, on touche à quelque chose multiforme et en même temps totalement actualisé par nos actualités politiques.
Rebecca ?
Oui, je voulais juste revenir sur effectivement le mouvement MeToo qui avait été possible grâce à l'autonomie économique et le pouvoir qu'avaient ces femmes aux États-Unis. Et c'est aussi la raison pour laquelle ça n'a pas autant pris en France. Les actrices françaises n'ont pas autant d'argent que les actrices américaines, elles n'ont pas autant de pouvoir, et c'est pour ça que, par exemple, les accusations envers le réalisateur Luc Besson n'ont eu que très peu d'écho dans la presse aussi.
On poursuit ce débat, et ce n'est pas un débat d'ailleurs, c'est une conversation autour de la mémoire et de l'action et de la prise de parole et des écrits de Simone de Beauvoir dans un instant. On va écouter une chanson de 1949, l'année du deuxième sexe, c'est Sarah Vaughan.
C'est vrai qu'on m'a traité de lesbienne, ce qui d'ailleurs à mes yeux n'est pas une insulte, mais enfin après le deuxième sexe, en effet. Bon, j'ai vu, avec étonnement quand même, ce que ça m'a révélé, ça a été l'animosité de certains hommes que je croyais être tout à fait proche de moi, par exemple comme Camus, et qui a été absolument irrité par le livre en disant que j'avais caricaturé le mal français, etc., etc. Il y en a eu d'autres aussi qui ont manifesté une mauvaise humeur extraordinaire. Alors ça m'a beaucoup surprise parce que je croyais que cette espèce d'égalité des hommes et des femmes que j'avais dans mon milieu très très proche, avec Sartre, avec Merleau-Ponty, avec certains autres, je pensais que c'était une chose acquise.
Il y a un professeur que je connaissais, un professeur de Sorbonne, qui était un beau-frère de Merleau-Ponty, et qui a pris le livre et qui, au bout d'une lecture assez brève, l'a jeté d'un bout à l'autre de la salle dans la fureur. Et il y a eu des articles extrêmement désagréables en disant que j'étais humiliée d'être une femme et qu'alors je voulais, à cause de ça, ridiculiser les hommes. Et les gens me regardaient souvent dans les restaurants, parce que le livre avait quand même eu un certain succès, on avait parlé de moi, en ricanant et en se poussant plus ou moins du coude.
Et l'attitude des communistes, par exemple ?
Ah ben, l'attitude des communistes a été tout ce qu'il y avait de décevante, parce que j'étais pas communiste, mais enfin, je pensais quand même que la gauche avait un certain intérêt dans une question comme celle-là. Or, ils ont écrit dans les lettres françaises que les ouvrières de Billancourt s'en foutaient bien de tous ces problèmes que je posais, ce qui est entièrement faux. Parce que les ouvrières de Billancourt sont aussi sensibles à la condition de la femme que n'importe qui.
C'est important de rappeler qu'effectivement, elle est jugée nymphomane, pornographe, bourgeoise, lesbienne, elle le disait. On l'accuse d'ignorer la cause des femmes ouvrières, de détruire le sentiment maternel, de vouloir tuer l'amour. Et son livre est mis à l'index par le Vatican. Il paraît même que Mauriac écrit à la revue Les Temps Modernes en disant « Je sais enfin tout du vagin de votre patronne ». Quelle violence, Jean-Louis Janel. Oui. Il faut recontextualiser tout ça.
Oui, la violence est très grande, mais on est aussi dans un contexte très particulier. On est après la guerre, la France reconstruit, le Parti communiste a une politique extrêmement nataliste. Et effectivement, lui qui avait pu à d'autres moments être plus ou moins aux avant-postes, là, au contraire, remet la femme à la maison. Et la femme de Thérèse, Jeannette, est l'une de celles qui promeut cette politique nataliste. Donc la réaction des communistes est d'autant plus décevante pour elle qu'au contraire, ils l'ont soutenue et qu'elle n'a accordé un entretien qu'à un journal communiste au moment de la sortie des mandarins. Donc elle avait pour souci d'être proche, de se montrer proche du Parti communiste. Donc cette réaction, elle est d'autant plus décevante pour elle qu'elle le dit, mais là, il y a peut-être quelque chose d'un peu étonnant pour nous. Elle se sentait plus ou moins à égalité, en tout cas avec les hommes qui étaient ceux de son entourage. Le mot qu'elle a à propos de Camus dit la séparation qui est déjà en train de s'opérer à ce moment-là. C'est en 52 qu'interviendra la rupture vraiment définitive entre Sartre et Camus. Mais cette rupture, elle est déjà en train de se dessiner d'une certaine manière. Et il y a là, pour Beauvoir, quelque chose qui est assez douloureux.
Rebecca Amselin, je voudrais qu'on évoque ce que vous faites sans doute au quotidien, là, remplir et nourrir cette newsletter qui s'intitule Les Glorieux. Si je vais sur Les Glorieux, je peux prendre connaissance de ce qui se passe en culture, je peux avoir des points de vue de femmes sur le pouvoir, des points de vue de femmes sur le sexe aussi. Si je clique sur sexe, je tombe sur quoi, par exemple?
J'ai pas en tête les derniers articles que j'ai
écrits. Si, un des derniers articles, c'est « Est-ce que t'as joui ?»
Alors, c'est pas moi qui l'ai écrit, celui-ci. L'article « T'as joui » a été écrit par une jeune femme qui s'appelle Dora Mouto, qui a créé un compte Instagram, d'ailleurs qui s'appelle « T'as joui » également, où les femmes font part de leur expérience sur leur orgasme et pour qu'elles puissent en parler librement.
Oui, puis les hommes, elle est agacée, cette femme. Il est drôle son texte d'ailleurs, elle est agacée parce que tous les hommes posent cette question, visiblement. Est-ce que t'as joui après l'amour? Et elle supporte plus que les hommes lui demandent ça. C'est important de parler de cet article, par exemple, parce qu'il y a de l'humour aussi dans votre page. Il faut pas tomber dans...
Bah oui,
il faut pas avoir peur d'un féminisme. Vous parliez d'activisme, ce sont des mots quelquefois qui effraient. Et ce serait dommage de ne pas plonger dans les glorieuses parce qu'il y a cette légèreté, cet humour et puis cette intelligence. Et si Geneviève Fraisse, vous êtes allée cliquer, vous aussi?
Ah ben moi, je reçois la lettre des Glorieuses.
Et ça vous intéresse?
Ah ben bien sûr, ça m'intéresse. Et je pensais en vous écoutant, t'as joui. Mais vous vous rendez compte que ça fait juste quelques années, 3, 4, 5, 6 ans, je ne sais pas très bien, qu'on montre ce qu'est un clitoris pour les manuels scolaires? Et encore, là, ça se dispute autour de ça. Mais moi, de ma génération, l'idée qu'on montrerait l'image du clitoris, ça m'avait même pas, je suis désolée, je m'en excuse, traversé l'esprit.
À qui vous vous adressez, Rebecca?
Je m'adresse essentiellement aux femmes, donc je m'adresse à mes lectrices comme si c'était uniquement des lectrices, donc ce qui énerve quelques-uns de mes lecteurs.
Et vous avez envie qu'elles sachent quoi? Vous avez envie de les informer sur quoi?
L'idée, c'est pas de les informer, mais c'est plutôt de leur donner des clés dans leur réflexion féministe. Il y a aujourd'hui 90 000 abonnés à la newsletter, essentiellement des femmes, mais il y a aussi 10% qui sont des hommes. Et donc ce sont des personnes qui s'intéressent à la question féministe, qui veulent avoir des sources sur cette question-là, mais à aucun moment je vais leur dire pensez comme ci ou pensez comme ça. Je vais aborder une question. Là, par exemple, la newsletter qui sort le mercredi était sur la notion d'allié dans le combat féministe et la notion de complice. On a tendance à dire que, même parmi les activistes, on veut que les hommes soient des alliés. Et J'ai repris un tweet de la réalisatrice Amandine Gay qui reprenait un texte écrit par le groupe des indigènes aux États-Unis et qui disait en gros on veut pas d'alliés, nous on veut des complices. Pourquoi ? Parce que être allié, ça signifie ne pas se mettre en danger. Ça veut se dire, bah, c'est par exemple les hommes, même dans les années 20 d'ailleurs, qui disaient je suis féministe, je suis pour le vote des femmes, mais qui eux-mêmes ne se mettaient pas en danger pour changer le système patriarcal dans lequel on est. Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est qu'on veut des complices à la cause féministe. On veut des hommes qui prennent le risque de dire « si jamais il n'y a pas de femme qui intervient dans cette conférence, je ne viens pas à cette conférence. Si jamais dans cette entreprise, on ne respecte pas l'égalité salariale, je ne veux pas travailler pour cette entreprise. » On veut vraiment des personnes, des hommes, qui soient complices de la cause féministe.
Il y a beaucoup de chemin encore à mener.
Je pense qu'il y a beaucoup de chemin, on est aux prémices de quelque chose, mais je pense qu'on n'a jamais été aussi proche de la révolution féministe. Je pense qu'on n'a jamais été aussi proche d'un moment où on peut changer effectivement ce système et où les femmes seront vraiment les égales des hommes. Je pense néanmoins que ça doit passer d'abord par une égalité économique et donc d'avoir des mesures concrètes pour faire en sorte que les femmes gagnent autant que les hommes aujourd'hui.
Ces mots-là, vous auriez pu les prononcer, vous les avez peut-être prononcés en 68, Geneviève Fraisse.
Après 68, j'ajouterais une chose, il faut aussi dire quelque chose de moins optimiste, c'est que les droits des femmes sont réversibles, et notamment le droit à l'avortement, dont on suit quand même l'actualité qui passe de « c'est bien en Irlande, c'est pas bien en Pologne ». Ça, ce sont des choses où, disons, j'adore l'optimisme de ma voisine, je suis d'accord pour que les hommes deviennent des complices, même plus qu'ils soient impliqués. Mais je sais aussi, pour fréquenter les temps qui sont passés, et pas seulement le mien, combien on est un peu une Sisyphe en bas de la montagne, quoi.
Le Grand Atelier, Vincent Josse, sur France Inter.
Thank you.
la chanteuse malienne Fatoumata Diawara. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller au Théâtre du Rond-Point à Paris, où s'est produite une compagnie qui s'appelle Les Filles de Simone. Sur scène, 5 comédiennes qui se penchent avec pas mal d'humour sur les tabous liés au corps féminin. Et d'après notre reporter Jean-Baptiste Urbain, c'est extrêmement drôle, malin et pertinent. Le spectacle est maintenant en tournée et il a pour titre « Le secret d'un gainage efficace ».
Est-ce que c'est ici le groupe corps?
Oui, oui, c'est bien là, mais il faut attendre les autres, elles vont pas tarder.
D'accord, oui, merci. Bonsoir.
Voilà, en deux mots, quelques mots. Je t'explique, Delphine. Donc voilà, on est le groupe corps. En fait, Delphine, on a décidé d'écrire un livre sur le corps des femmes et sur la relation complexe qu'on entretient toutes avec lui.
Voilà, explorer les injonctions.
On s'est inspiré de cet ouvrage qui date des années 70, hein, qui s'appelle Notre corps nous-mêmes.
Alors, on veut faire comme elle, en fait, mêler des témoignages de femmes.
Mais d'abord les nôtres. Oui, alors des témoignages qu'on a recueillis lors des partages d'expériences en AG.
Ouais, parce qu'on Cécile, je suis comédienne donc pour le spectacle Les secrets d'un gainage efficace.
Géraldine, Tiphaine, Claire.
Claire qui n'est pas sur scène mais qui participe à la création du spectacle.
Et Chloé.
J'aime les filles.
C'est qui, les filles de Simone?
Les filles de Simone, on a voulu inscrire la compagnie dans une filiation avec le féminisme, parce qu'on avait envie de parler de ces questions-là. C'est un héritage qui est à la fois très porteur et à la fois qui peut être encombrant. Et nos spectacles, ils se situent un peu à cet endroit-là, quoi.
De quelle Simone vous parlez?
Il y a Simone de Beauvoir, Simone Veil, et puis ma mère s'appelle Simone.
Qu'on soit plus sereine, qu'on soit plus libre, quoi.
Oui, mais bon, attends, t'inquiète pas, hein, ça va pas être la confrérie des mamelles, les règles, c'est tellement merveilleux que je me tartine la gueule avec parce que c'est hydratant.
Hein. Qu'est-ce qu'une Simone de Beauvoir n'a pas dit que vous dites ce soir? Peut-être que ma question est idiote. Hein.
Non.
Déjà,
ça demande de la réflexion.
C'est aussi qu'elle a écrit des choses qui étaient complètement novatrices à l'époque, puisqu'elle a écrit, c'était en 49, Le deuxième sexe. Du coup, depuis, évidemment qu'il y a d'autres choses à dire, parce que la société a quand même changé, mais elle a lancé un pavé dans la mare, donc elle a tracé les autoroutes pour nous. Maintenant, nous, on peint le marquage au sol.
Et c'est peut-être dans la modalité aussi, peut-être que maintenant, on dit les choses plus avec de l'humour, avec autant de rage et de colère, mais on utilise plus le biais de l'humour, peut-être pour faire passer ces choses-là.
Je me lave le visage, je me lave matin, je me lave midi, je me lave soir, t'inquiète pas, j'ai des crèmes de jour, j'ai des crèmes de nuit, t'inquiète pas, c'est pas une question d'alimentation, de chocolat, de trop de chocolat, je mange pas des fondus tous les soirs, c'est pas du fromage, c'est pas du saucisson, c'est de l'acné en fait! C'est un problème hormonal! Je me bats depuis que j'ai 14 ans, j'ai de l'acné, maintenant j'en ai 35, ça fait 21 ans que j'ai de l'acné, j'ai déjà des rides!
Simone de Beauvoir, on le voit dans son œuvre que parfois. L'idée, c'était plus de s'abstraire de la biologie, donc de s'abstraire de la contingence d'un corps féminin, de la repousser au loin. Et aujourd'hui, peut-être notre génération, on est une génération où on se dit, en fait, il y a des expériences spécifiquement féminines, les règles, ce dont on parle dans le spectacle, l'hymen, enfin, il y a des choses qu'on partage dans un vécu toutes, et qu'aujourd'hui, peut-être qu'il faut se réapproprier ce corps-là. C'est ça qu'on raconte dans le spectacle.
Pour toutes les filles qui, comme ma sœur, on camouflait dans les toilettes du collège le bruit de la serviette qu'on ouvre. Aujourd'hui, je fais du bruit. À toutes celles à qui jamais personne n'a dit ce que c'était que les règles et qui ont cru qu'elles allaient crever parce qu'elles faisaient une hémorragie. À toutes celles qui évitent de croiser le regard du caissier lorsqu'elles achètent leur boîte de tampons.
Je ne l'ai pas pris comme un spectacle extraordinaire. J'ai l'impression que c'était mes copines. J'étais avec elles dans un square, dans la rue, à la maison, en pyjama, voilà, et on se parle. C'est vraiment réconfortant. Et je me suis reconnue dans chacun des personnages.
Madame, c'est féministe pour vous?
Oui, moi je trouve que c'est féministe. Ça dit tout haut ce qu'on a longtemps même pas dit tout bas. Et puis c'est un peu une rétrospective de tous les problèmes qu'on a pu rencontrer depuis très longtemps et qu'on rencontre certainement moins maintenant, sauf que ça n'est pas sûr qu'il n'y ait pas un petit retour en arrière.
C'est pas un discours qui souhaite faire une propagande, c'est simplement la réalité des femmes dans leur profondeur et dans l'humour qu'elles ont pour parler d'elles-mêmes.
Ouais, il faut dire aussi qu'on n'est pas aidés, parce qu'en ce moment, je suis en train de me farcir Sartre.
Oh, farcir, c'est bon.
Ouais. Ouais. Non, c'est très intéressant, parce qu'il décrit quand même le sexe féminin comme une grosse fleur de chair mouillée.
Oh, je viens d'en peur.
Attends, tu ne pourras pas si bien dire, parce qu'il a écrit aussi, attends, je te trouve la fin. Voilà. Le sexe féminin est trou,
obscène comme toute chose béante.
Pour Simone.
Voilà les secrets d'un gainage efficace. C'est en tournée de Jouy-le-Moutier à Fos dans le Val d'Oise. Vous n'êtes pas encore allé, Rebecca Anselem?
Aller voir la pièce, ouais. Pas encore, mais je vais y aller.
Bon, il se passe pas mal de choses encore dans l'esprit Beauvoir, Geneviève Fraisse. Ça doit vous faire plaisir de voir que des trentenaires font du théâtre et parlent de tabous liés au corps des femmes, d'entendre Rebecca qui se dit activiste et qui a beaucoup de choses à dire encore sur l'inégalité, notamment salariale, entre hommes et femmes. Comment réagissez-vous?
Je réagis comme quelqu'un qui a commencé aussi. J'appelais ça la rue et la bibliothèque, de faire en même temps la rue et la bibliothèque. Donc si la rue rejoint la bibliothèque et si la bibliothèque rejoint la rue, tout me va.
Merci d'avoir été, de nous avoir éclairé sur le parcours de Beauvoir, de nous avoir parlé de sa place dans la littérature et aussi dans la société. Geneviève Fraisse, je signale entre autres Le privilège de Simone de Beauvoir qu'on trouve aux éditions Folio. Il y a d'autres livres qui seront inscrits sur la page du Grand Atelier de la Pléiade, donc les mémoires, faites-vous plaisir. Ça coûte toujours un petit peu d'argent, un volume de la Pléiade, ça coûte environ 60-70 euros.
62, non ? Ou 70, je ne sais plus.
69-70 euros, un volume, il y en a deux, et puis il y a l'album aussi. Puis, si vous voulez mieux connaître Rebecca Anselem, vous pouvez aller sur la newsletter Les Glorieuses, mais aussi lire son dernier livre à Rebecca Anselem, Les Glorieuses, chronique d'une féministe chez Webeck. Et puis Geneviève Fraisse, il y a aussi votre livre Les excès du genre, une enquête philosophique. Rebecca.
Je voulais juste ajouter une conclusion par rapport à cet ouvrage de Simone de Beauvoir, c'est que elle a permis à toutes les femmes aujourd'hui de dire « je » et de raconter leur histoire. Le « je » est éminemment politique pour les femmes. Ne serait-ce parce qu'on leur a dit que leur histoire n'était pas légitime et qu'elle devait être invisibilisée. Donc elle nous a vraiment permise, en tout cas à moi aujourd'hui, de dire « je ». Et je voulais aussi remercier infiniment Geneviève Fraisse. Grâce à vous et à vos travaux, on n'en serait pas là aujourd'hui. Merci.
Vous voulez bien qu'on se quitte avec Sartre et Beauvoir, encore une fois, deux ans avant la mort de Sartre?
Alors comment voyez-vous votre œuvre aujourd'hui? Parce que vous êtes comme moi, vous l'avez à peu près terminé. Vous pourrez écrire encore. Mais en gros, notre œuvre est derrière nous.
Là, je suis bien d'accord.
Alors donc, on peut penser quelque chose dessus. On n'est pas en train de la faire dedans. On est dehors, elle est finie. Alors qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que j'ai réussi à peu près ce que je voulais. Je ne veux pas dire que c'est ce que tout écrivain veut. Et vous avez voulu d'ailleurs beaucoup d'autres choses, et d'autres écrivains veulent d'autres choses. Mais moi, ce que je voulais essentiellement, c'était donc parler aux gens, pour ainsi dire, de bouche à oreille. Parler de manière que les gens s'identifient avec mes héros, mes héroïnes, ou tirent profit de ce que je leur disais. Et là, je pense que j'ai réussi, parce que Le deuxième sexe, entre autres, m'a valu énormément de lettres de femmes qui s'y référaient, qui disaient que ça les avait aidées. J'ai même vu des psychiatres qui m'ont dit s'en servir pour faire prendre conscience à certains de leurs malades, certaines surtout, parce que ça a été surtout utile aux femmes. Bon, donc là, je pense qu'il y a quelque chose qui a été assez réussi. Et dans mes autres romans et dans ma biographie aussi, il y a eu certainement beaucoup de femmes qui sont plus ou moins identifiées à moi, ou qui ont cherché en tout cas à penser une certaine ligne de vie à partir de celle qui avait été la mienne.
Valérie Ayestaray a réalisé cette émission, Perrine Malinge et Karen Dehé m'ont aidé à la préparer. Il y avait à la technique Nicolas Cazot. Vous retrouvez les chansons et la musique sur la page du Grand Atelier sur franceinter.fr. Elles sont proposées par Thierry Dupin. Le Grand Atelier se réécoute et se podcast en allant sur franceinter.fr à la page du Grand Atelier. Rendez-vous aussi sur la page Facebook de l'émission. Venez vous abonner s'il vous plaît et découvrir nos invités. Rendez-vous à 15h sur Inter.